Bienvenue.
Bienvenue.
Bienvenue dans le monde 2.
Un podcast et une newsletter pour grandir personnellement et spirituellement.
Bienvenue dans le monde 2.
L'amour, la joie,
le guide Michelin des pratiques de l'invisible.
Un guide sonore pour ne plus avoir peur.
Sois ton propre gourou.
Juno.
Salut, c'est Julien. Je vais au fil de ces épisodes te faire découvrir toutes les pratiques qui ont changé ma vie. Celles qui m'ont permis de faire entendre ma voix pour la première fois en public et de me sentir enfin vraiment à ma place. Depuis, j'ai multiplié ces expériences de l'invisible. Énergéticienne, magnétiseur, chaman et bien d'autres encore. Mon but, t'ouvrir différentes portes d'entrée vers ce monde-là. Que tu puisses goûter avec confiance d'autres voies pour toi.
Épisode 5.
Alexia Collin, psychopraticienne et astrothérapeute. Donner du sens à ses souffrances.
Bienvenue dans le monde 2.
Bonjour Alexia.
Bonjour Julien.
Comment vas-tu ?
Eh bien très bien, et toi ?
Eh bien écoute, je suis assez heureux, je suis même très heureux en vrai, parce que c'est le 5e épisode de Bienvenue dans le monde 2. De ce beau podcast que j'ai mis en place pour présenter les praticiens et praticiennes de l'invisible, comme toi, qui m'ont accompagné, que j'ai envie de faire goûter à toutes ces personnes qui vont s'abonner au podcast. Et donc, je suis très heureux de te recevoir aujourd'hui. Mais c'est toi qui me reçois chez toi. Et j'aimerais savoir dans quelles énergies tu es là, dans le début de cet enregistrement de podcast.
Eh ben écoute, je suis assez excitée. J'ai l'impression d'être une petite fille de 4 ans. Bon, voilà. Et je suis ravie de faire partie de ce projet. Ça me fait super plaisir. Et je suis ravie de t'accueillir chez moi, en plus, dans mon énergie, parce que mon cabinet est chez moi. Donc, on est vraiment dans le creux du soin, là.
Qu'est-ce que c'est d'accueillir quelqu'un dans son énergie et d'avoir son cabinet avec son énergie ? Qu'est-ce que ça crée de particulier de l'avoir aussi chez toi, tiens ?
Eh bien, c'est particulier parce que les gens entrent d'une certaine manière dans mon intimité, puisqu'on traverse mon salon pour arriver jusqu'au cabinet qui est vraiment spécifique. Alors, je sais très bien qu'une fois qu'on est dans mon cabinet, les gens oublient complètement le salon et tout ça. Mais je trouve toujours ça très intéressant parce que les personnes qui viennent me voir vont livrer une partie de leur intimité. Et un peu comme un échange, je leur livre une partie de la mienne. Alors très soft, parce que mon salon est somme toute un peu une couverture Ikea, clairement. Mais puis très, très carré, très rangé. J'ai un conjoint qui est très psycho-carré, tout ça, tout ça. Donc même si on n'avait pas de clients, ce serait très Ikea. Mais je sens que ça les soulage de venir voir une humaine et pas que une professionnelle. Voilà. Alors il y a des gens que ça va déranger et puis il y a des gens qui vont adorer. Des fois, qui me disent « Ah, oh, vous avez changé la déco ! Ah, oh, j'adore, machin !» Et je trouve ça très chouette.
J'aime bien cette idée, effectivement, d'avoir un sas énergétique de l'intime de chez toi. Donc, tu ouvres ça comme un sas, et puis derrière, ensuite, tu les amènes dans leur intime, où ils vont s'ouvrir.
C'est ça.
J'aime bien cette idée-là. Mm. Depuis combien de temps tu fais ça ?
2018, ça nous fait donc 5 ans. On va sur la... On va vers la 6e année, c'est ça ? On va vers la 6e année, sachant que je pense qu'un peu comme tous les praticiens, on est né comme ça. Donc, j'étais surtout la thérapeute de mes potes, la thérapeute de mes amoureux, la nana chez qui on vient quand il y a un gros problème. Bon, petit à petit, ça se professionnalise.
T'associes vraiment ça d'être praticien, praticienne, thérapeute à on l'a toujours été, quoi. C'est quelque chose qu'on a finalement en nous dès notre naissance.
Oui. Et surtout, je considère qu'on choisit pas son métier par hasard et que souvent, c'est alors soit un mode automatique familial, soit une alchimisation de ce qu'on a vécu. Et je me rends compte que, en tout cas, en travaillant sur moi, parce que ça a été la première partie du chemin, j'ai beaucoup été la thérapeute de mes parents, plus particulièrement, clairement, le petit soleil qui permet de tenir le coup, quoi. Mais aussi celle à qui on se confie. Donc oui, c'est quelque chose que j'ai fait longtemps, Sauf que maintenant, j'arrive à avoir une partie métier et une partie Alexia qui n'est pas que thérapeute. Ça fait du bien.
J'entends tout à fait. On va aller creuser donc ton parcours, un peu ton passé. Les cartes vont nous aider à ouvrir justement une porte de celui-ci, jusqu'à ensuite arriver là où tu t'es lancée pour devenir thérapeute. Et tu vas me dire d'ailleurs comment tu te définis précisément dans tes mots. On va en parler juste après.
Ouais.
Et puis ensuite, on va parler du thème astral. On va se baser sur le mien.
Mm-hmm.
Comme pour le design humain, ça permet d'y voir plus clair et d'y comprendre beaucoup mieux qu'est-ce qui s'y joue là.
Mm-hmm.
Je le mettrai en photo également dans les partages. et puis voilà, on va avancer tranquillement. On terminera aussi avec une carte, mes chères cartes point of view pour terminer aussi l'épisode. Alors, avant de tirer la première carte, est-ce que tu peux te présenter, mais comme tu le sens, comme ça vient aujourd'hui?
Dans le fluide d'aujourd'hui, je m'appelle Alexia, j'ai 33 ans, depuis peu. Je suis très contente d'avoir 33 ans. Franchement, je trouve que plus on vieillit, mieux on va. C'est quand même extraordinaire. J'habite à Concarneau, je suis lyonnaise de base. Comme toi.
Exactement.
Mais une passionnée de la Bretagne et une amoureuse de cette ambiance celtique. Je suis psychopraticienne spécialisée dans les thérapies émotionnelles. Et comment je me définis ? Comme une sorte d'hurluberlu, pourtant très cadrée mais un petit peu bizarre, qui accompagne les gens dans leur vie pour qu'ils soient plus souples face à l'adversité et surtout beaucoup plus sûrs d'eux. Là, à l'heure actuelle, je me rends compte que ma manière d'accompagner les gens, c'est vraiment de faire en sorte qu'ils aient une base solide pour la suite. Je sens bien que je suis la personne qui, pour les gens, vient accueillir, consolider, mettre un baume sur leurs grandes blessures d'enfance, d'amour ou de trauma qu'ils ont pu avoir au cours de la vie, parce que ça arrive, pour qu'ils puissent se retrouver déjà eux-mêmes à l'intérieur de tout ça. Et avoir la liberté d'être qui ils sont vraiment. Voilà, sans être complètement étriqué dans un modèle du monde très, très, très fermé.
Génial. Merci. Et quand tu parles de baume sur nos blessures, on peut leur mettre du baume, on peut les apaiser, mais est-ce qu'elles arrivent un jour à cicatriser ou ces blessures sont un peu là pour nous accompagner toute notre vie?
Alors, je vais dire un truc qui n'est pas de moi, mais que j'ai trouvé très juste. Il y a quelques mois, j'ai fait une formation sur le trauma avec Ominia, je crois. Avant, elle s'appelait Le Sentier, elle est sur Instagram, on vérifiera. Donc, elle est psychologue spécialisée dans le trauma et elle a fait une information sur le traumatisme que j'ai trouvé passionnante. Et elle expliquait que suite au trauma, en fait, c'est comme quand on a le bras cassé. Ça va guérir, mais on va garder dans l'os la marque du trauma. Pour autant, on pourra de nouveau mobiliser le bras, voilà. Par contre, ça fait partie de notre histoire. Et sur ces blessures, je la cite parce qu'elle est pertinente. C'est-à-dire que c'est exactement ça. Oui, les blessures seront toujours là. Ce sera toujours un endroit où la peau, à l'endroit du tissu cicatriciel, ça fait pas pareil, mais ça fait plus mal. Par contre, on s'en souvient. Et on verra ensuite dans la découverte de l'astro, mais en astrologie, les blessures qu'on appelle les blessures de lune noire sont aussi nos lieux d'excellence, car on doit y mettre de la conscience et créer pour soi ce qui nous a terriblement manqué. Et ces énergies ou ces sujets sur lesquels on s'est dit qu'on n'avait pas le droit de mériter ou pas le droit d'en profiter. Donc pour moi, oui, ça reste un endroit où il y a un tissu qui est différent. Par contre, ça fait plus mal. À partir du moment où on est allé traverser ses souffrances, et puis accueillir, et puis mettre du baume, effectivement.
Eh bien, écoute, je te propose de continuer, de tirer une carte pour aller voir un peu plus clair dans ton propre passé à toi. Comment peut-être tu as transformé ces blessures, t'en as fait des guérisons et t'en as fait des cicatrices, mais qui ne te font plus mal aujourd'hui.
Mmh.
Et on va tirer soit un mot, soit une photo, soit une question. Qu'est-ce que tu choisis ?
On va commencer par la question.
Tu veux une question ?
Ouais.
Ok. Très bien. Alors, chère carte, on va vous demander de nous montrer une question pour ouvrir le champ du passé d'Alexia. Et c'est Alexia qui va tirer la carte.
Allez. Là, celle-là. Ça me dit. Dans quelle situation suis-je trop dans ma zone de confort ? Alors ça, c'est une sacrée question. Dans quelle situation je suis trop dans ma zone de confort ? Oh ouais, ça me sidère.
Lié à ton passé.
Oui, oui, lié à mon passé. Et bah honnêtement, quand j'étais enfant, ma zone de confort, c'était ma rêverie et ma bulle. J'allais te dire au départ, oulala, quand j'étais enfant, la zone de confort, oui, a-t-elle existé ? Non, en réalité, je pense que j'ai été très dans ma zone de confort en faisant le clown. Et j'étais une petite fille très rêveuse, je le suis toujours d'ailleurs, hein, très très rêveuse et très dans mon imaginaire, très dans mes pensées. Et c'était là ma zone de confort. Quand il fallait aller dans le monde extérieur, c'était beaucoup plus compliqué.
Qu'est-ce qui s'est passé pour que tu puisses ensuite y aller un peu plus dans le monde extérieur ? Comment t'as grandi, toi ?
J'ai pas trop eu le choix. J'ai pas trop eu le choix... comme un peu tout le monde, c'est l'école, mais l'école, ça a pas forcément été très très positif ni très agréable. J'ai emmené en fait mon univers et ma petite bulle un peu partout, et puis j'y allais pour respirer régulièrement. Je pense plus que mes parents aient mes carnets, mais si on pouvait relire mes carnets, c'est Alexia dans la lune, Alexia est étourdie, Alexia est dans sa bulle. Ça a été beaucoup ça. Et comment j'en suis sortie? Je pense que au moment de ma crise d'adolescence, ça a été tellement une souffrance. Je me disais, c'était pas possible de vivre comme ça. C'était pas possible de vivre dans un monde aussi souffrant. Mais c'était par rapport à moi. Mais moi, je suis enfant unique. Je l'ai pas dit, mais je suis enfant unique et donc je vivais que avec mes parents. Et je me disais, mais ils ont l'air de. Je suis désolée de le dire, mais ils ont l'air d'avoir une vie de merde, quoi. Et je me disais, mais moi, je veux pas ça, en fait. Je veux pas aller au boulot toute la semaine, dormir tout le week-end parce que t'es épuisée, ne rien faire de ma vie. Alors, il faut savoir que ma vie a été coupée en deux, enfin, en tout cas, mon enfance, parce que jusqu'à mes 9 ans, j'ai habité dans une petite commune près de Lyon, qui s'appelle Mions, où mes parents étaient hyper bien intégrés, avaient beaucoup d'amis, s'éclataient beaucoup. Et ensuite, mon père bossait, parce que maintenant il est à la retraite, dans une centrale nucléaire vers Lyon, qui s'appelle Crémalville, qui a fermé à ce moment-là. Et donc il a été muté dans l'Oise. Et mes parents qui étaient proches de leur famille, qui avaient des amis, qui étaient très investis dans les associations, se sont retrouvés tout seuls, dans une région qui ne leur ressemblait pas. Et moi, en fait, j'étais beaucoup élevée par tout le monde. J'avais une nourrice, j'avais ma grand-mère, j'avais ma voisine du dessus que je considérais comme ma grande sœur. Donc en fait, elle habitait vraiment, on avait deux maisons, l'une en dessous de l'autre. Et donc son jardin était côté ma fenêtre de chambre. Et quand j'en avais marre de mes parents, mais à 4 ans, hein, j'ouvrais mes volets et ma fenêtre et je me barrais. Je refermais les volets et la fenêtre et je me barrais chez ma voisine. Je passais toute l'après-midi, quoi. Donc mes parents, quand ils rentraient dans ma chambre et qu'ils voyaient qu'il n'y avait plus personne, c'est parce que je m'étais cassée chez la voisine.
À 4 ans.
Et j'ai continué jusqu'à mes 9 ans. Donc j'ai beaucoup été élevée par tout le monde, mais honnêtement pas trop par mes parents. Et donc de se retrouver tous les trois c'était dans l'Oise, dans une grande maison. Mes parents ont eu un gros coup de déprime. Oh, ça a été compliqué. Ça a vraiment été compliqué. Donc, je sais plus pourquoi je disais ça. Oui, à ce moment-là, je me suis rendu compte que la vie qu'ils avaient, je voulais pas l'avoir. Et la vie que j'avais à l'heure actuelle, je voulais pas l'avoir non plus.
Quelle était ta vie à ce moment-là ? Est-ce que c'était ta lune noire ? Est-ce que tu peux nous parler un peu plus de ça, si t'acceptes ?
Oui, bien sûr. Alors, il y a deux pôles qui sont très douloureux dans le thème. Il y a les lunes noires et il y a le karma. Le karma, c'est le modèle automatique que l'on a, qui nous permet de survivre et en même temps qui est à minima ennuyant ou stérile, à maxima souffrant. Adolescente, alors déjà j'ai fait une crise d'adolescence carabinée, vraiment, et c'est l'ennui qui était là. C'est-à-dire que je me reconnaissais pas à l'école, ni au collège, ni à l'école, ni au lycée, ça allait mieux quand même. Je me suis sentie déracinée de partir de Lyon. Et alors mes blessures, j'en ai deux, je suis une petite chanceuse, on peut en avoir d'une à 12, j'en ai deux.
Ah, ok, de 1 à 12 blessures. Okay.
Oui, de 1 à 12 blessures. Mais en réalité, quand on n'en a qu'une seule, enfin à mon sens, je sais qu'il y a plusieurs avis là-dessus, mais à mon sens, il y a un quota de souffrance qui est divisé en 2 ou en 12. Du coup, quand on en a deux ou quand on n'en a qu'une, On n'en a qu'une seule, mais quand ça appuie là, ça y va, quoi. Moi, j'ai une blessure qui est liée à la relation aux autres. C'est ma principale. Ça s'appelle une blessure de séduction. Mais qui est beaucoup plus large que la séduction amoureuse, qui vient dans un passé où les parents, en tant que couple, n'ont pas su montrer à l'enfant un couple harmonieux. Donc ça peut être des parents qui se disputent beaucoup, mais ça peut aussi être des parents qui ne sont pas en relation. Et moi, c'était plutôt le cas de mes parents à moi, en tout cas de ce que j'ai vu. Et ça intègre à l'enfant, en tout cas à la petite fille que j'étais, qu'on n'est pas digne de rendre les autres heureux, on n'est pas digne d'être sympathique. Et puis, y a un petit côté... au niveau de la relation, moi, je ne sais jamais quand on me drague. Et alors, je ne sais absolument pas draguer, c'est une catastrophe. Ceci dit, le couple, du coup, m'a passionnée, comme c'est ma blessure. Bah, j'ai eu soif d'aller chercher là-dedans. Donc, j'ai beaucoup cherché. Donc, ce côté, je ne suis pas très sympa, je ne vois pas ce que les gens viennent chercher chez moi, ça m'a beaucoup pesé, beaucoup moins petite, mais adolescence, c'est là où on commence les premières amourettes. Et moi, j'ai un karma dans l'énergie du lion, et ça s'appelle un karma d'image. Les gens qui ont un karma lion ont une blessure narcissique terrible. Et donc, là-dessous, c'est... Moi, j'étais persuadée que non seulement je me trouvais pas sympathique, mais en plus, je comprenais pas pourquoi les gens, ils m'aimeraient, quoi. Donc, ça crée un globi-boulga à l'adolescence qui est quand même pas terrible. Et ma deuxième blessure, elle s'appelle la blessure d'incarnation. Et alors, celle-ci, elle est un petit peu... c'est pas la plus facile à expliquer. Parce qu'en fait, elle régit à la fois nos dons, nos talents, ce pourquoi on est fait. Et quand on a des dons et des talents, il faut travailler pour les peaufiner, pour avoir du plaisir à les pratiquer, mais ça demande quand même de la discipline. Et puis parfois, on régresse, donc il faut garder courage. Et puis une fois qu'on a ça à l'intérieur de soi, on peut le monétiser, on peut se faire payer, on se rend compte qu'on a des dons qui sont monnayables et ça amène une sécurité matérielle et physique. Et puis ça touche aussi tout ce qui est sens et corps et sensation du corps. Donc souvent, quand on a cette blessure, déjà, on a l'impression qu'on est capable de rien. Et que, du coup, ça génère une relation à l'argent qui est un petit peu compliquée parce que on a l'impression que de toute façon, on gagnera jamais de billets, quoi. Donc, on vit soit avec rien, soit on accumule beaucoup d'argent, mais on s'en sert pas au cas où. Et puis, au niveau du corps, ça donne des gens qui sont pas très bien incarnés, qui se cognent, ils ont des bleus énormes et, ils savent plus comment ils se sont cognés. Ils prennent pas soin de leur corps. Ou souvent, ils sont aussi pas tellement incarnés, ils sont un petit peu en bulle au-dessus. Donc, ayant ça, le déménagement, ça m'a vraiment appuyé sur cette blessure-là parce que ça a appuyé chez moi le fait que même ma maison, je pouvais pas en être sûre, que ça allait bouger de toute façon. Donc, il y a plein de marqueurs dans ma vie comme ça qui font que très vite, je me suis dit « Ouh là là, la matière, c'est risqué, ça tient pas la route. » Ce qui est complètement l'inverse que ce que la plupart des gens pensent. Donc, moi, le matériel, très vite, je m'en suis détachée en disant « Bon, on peut avoir une maison dans un endroit, puis du jour au lendemain, on déménage. Donc, salut, bonsoir. Moi, je m'attache à plus rien. Et quasiment à plus personne. » Donc, l'adolescente que j'étais, c'était un petit peu ça. Quelqu'un qui souffrait énormément de solitude, qui était assez déprimée, qui se sentait très seule avec ses parents, avec des parents qui étaient eux-mêmes très tristes. C'est pas très joyeux, tout ça. Mais ça a été le moule de ce que j'étais plus tard. Et avec cette question, mais c'est pas possible de vivre comme ça. Ça, je m'en souviens bien, mais enfin, quel est le sens? Quel est le sens de vivre dans des conditions pareilles? C'est pas possible. Il doit y avoir une autre solution. Ça m'a secoué les tripes, quoi. Je demandais d'ailleurs à mes parents, mais c'est pas possible, vous bossez tout le temps. Et puis mon père comprenait pas, c'était une grosse remise en question de leur vie et puis de ce qu'ils m'offraient. C'était terrible pour lui que je dise ça. Alors, il avait des propos pas très agréables, mais bon, lui, il comprenait pas. Et ma mère, je pense qu'elle sentait pourquoi, mais tellement prise dans son mal-être qu'elle savait pas quoi me répondre.
Et oui, et c'était à quel âge ça? T'avais 15, 16, un truc comme ça?
Oh, même avant, j'ai commencé tôt, moi, ma crise d'ado.
Oui, c'est à 4 ans, tu partais déjà.
Oui, je me cassais, moi. Non, à 12 ans. À 12 ans, et ça a duré. Après, j'ai décidé de faire mon propre chemin, Donc, je suis partie très tôt de chez mes parents. J'ai eu un petit copain très tôt. J'ai eu un petit copain à 13 ans et on est resté ensemble jusqu'à mes 21. Donc, ça a été toute une construction. Et puis, du coup, très vite, voilà, quand on est ado, qu'on a un petit copain, moi, j'avais tracé ma route et voilà, quoi.
Et quel est le sens alors? Comment tu as commencé à y mettre du sens dans ta vie? Est-ce qu'il y a des moments où tu as connu des choses assez noires? Parce que quand tu n'as aucun sens et que tu te sens rejeté de partout, que rien n'est en sécurité pour toi, est-ce qu'il y a un moment où tu t'es dit, mais qu'est-ce que je fous là, quoi?
Oui, oh bah quasiment beaucoup. Hein. Souvent, je dis aux gens qui viennent me voir parfois, parce que en fait, je trouve que dans la relation thérapeutique, il y a une sorte d'impression que la personne en face a tout compris ou n'a jamais vécu de choses difficiles. Et souvent, en rigolant, je leur dis, mais moi, très souvent, même encore à l'heure actuelle, ça m'est arrivé il n'y a pas plus tard que 6 mois, non, mais ça y est, moi, je veux mourir, j'en ai marre, laissez-moi mourir, en fait, c'est bon, j'ai fait mon taf, laissez-moi tranquille. Bon, maintenant, j'ai fait mon taf, en réalité, je ne l'ai pas terminé, mais quand j'étais plus petite, c'était plus, mais vivement que ça s'arrête. Vivement que ça s'arrête. Les moments noirs de ma vie, oui, j'en ai eu plein, comme la plupart du monde. Le déménagement a été très compliqué parce que en plus mes parents ne me l'ont pas dit, c'est-à-dire que je l'ai appris en fait de famille et j'ai bien senti qu'à l'intérieur de moi c'était un déchirement. Alors ce qui sont les piliers de ma vie et en même temps les grandes fissures de ma vie, c'est à la fois moi je suis issue d'un don de sperme, donc mon père est stérile, mes parents s'en sont rendus compte très sur le tard. Et moi, je ne l'ai su qu'à 22 ans. Et vivre dans une famille où il y a un gros secret comme ça, bah, ça pèse très lourd. C'est-à-dire que j'étais la seule à ne pas être au courant et tout le monde est au courant à part moi. Donc, ma grand-mère avait très peur de faire une boulette. En plus, elle me gardait beaucoup. Et puis, je posais beaucoup de questions. Elle m'a rappelé il y a quelques années qu'il y avait, tu sais, cette émission, ça se discute le soir. Et c'était... Je dormais chez elle et je voulais absolument regarder cette émission sur les enfants adoptés. Et ma grand-mère, elle était trop mal. Je pouvais pas. Donc elle me dit, bah, je suis partie me coucher. Je t'ai laissée devant l'émission. Et elle me dit, je pouvais pas. Ta mère me voulait pas que je te dise la vérité. Donc, bah, je t'ai laissée regarder l'émission parce que tu commençais à me poser des questions, à me dire, bah oui, bah, c'est normal, il faut dire la vérité. Ta. Et ma grand-mère, elle a pas supporté, elle est partie se coucher. Elle m'a laissée regarder le truc toute seule. Et c'est vrai, je me souviens de cette soirée-là où vraiment je trouvais ça inadmissible de faire vivre ça à ses enfants et c'était bien lié quand même. Donc, il y a ça qui a fait partie de ma vie en pointillé où effectivement, j'étais très très proche de mon père quand j'étais petite. Et puis, plus j'ai grandi, plus il a mis une distance. Parce que j'étais la preuve matérielle, physique et humaine qu'il n'était pas capable de donner la vie. Et en même temps, il était père. Et ça a été, même encore maintenant, c'est très compliqué pour lui. Mais j'ai grandi avec ce regard-là. Et moi, j'ai très vite intégré, comme la plupart des gens qui vivent dans un secret, que certainement j'avais dû faire quelque chose d'effroyable et que mes parents me protégeaient en me disant pas. Donc j'ai grandi avec ça, ce qui a bien aidé la faille narcissique, hein, là-dessus, ça a fait un très bon terreau. Donc ça a marqué ma vie, ça a créé des pathologies, j'ai eu des troubles alimentaires à cause de ça. Et puis à 21 ans, bah, j'ai quitté mon premier amour, mes parents ont divorcé, alors là c'était une journée extraordinaire, moi j'ai déclenché une anorexie sévère. C'est-à-dire que j'ai décidé d'arrêter de manger. Il y a un livre qui s'appelle comme ça, et c'est vraiment comme ça que ça s'est passé. Je voulais plus. Je voulais manger au minimum. Je voulais que mon corps soit le plus restreint et le plus petit possible.
Afin de disparaître, quoi.
Ouais, de prendre le moins de place. Et j'ai été hyper efficace parce que, je sais pas, j'ai dû passer de 56 kilos à en dessous des 30 en quelques mois. Très, très performante, la meuf. Et à ce moment-là, mon père était en plein dans la souffrance. Alors, ce qui s'est passé, c'est que mon père a quand même été assez dur avec moi à ce moment-là, parce qu'il était très, très malheureux. Et ma mère faisait comme elle pouvait, et en même temps, elle vivait une idylle avec un autre homme, donc c'était en même temps un moment de bonheur, c'était un gros bazar. Et elle est venue me voir quelques mois après, donc quand j'étais toute maigre, et elle me dit « Mais pourquoi tu fais ça ?» Et moi, je ne savais pas pourquoi je faisais ça. La seule chose que je savais, c'est je veux disparaître au maximum. Je veux prendre le moins de place possible. Et quand elle m'a posé cette question, les yeux dans les yeux, Je l'ai regardé, je lui ai dit, pourquoi papa me déteste? C'est sorti tout seul. Je dis, qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi papa me déteste? Qu'est-ce que j'ai fait enfant? Et là, elle m'a sorti, ton père n'est pas ton père, je blâme, effondrement de la base. Moi, j'ai cru qu'elle l'avait trompé, pas du tout. C'était une PMA. Voilà. Donc ça, ça a été des gros marqueurs de ma vie qui ont expliqué beaucoup les absences parfois de mes parents. Voilà, c'est tout est très très lié, quoi. Tout est très très lié.
Qu'est-ce qui se passe en toi au moment où t'es en pleine anorexie et elle t'annonce ça justement que ton père n'est pas ton père? Et comment ça a cheminé ensuite? Est-ce que ça a été une résolution pour toi? Est-ce que t'as compris un non-dit familial? Ou ça a aggravé avant de remonter?
Ça a aggravé avant de remonter. Quand elle me l'a dit, j'ai senti un éboulement par le bas. C'est-à-dire que mes fondations ont explosé et tout ce que j'avais construit depuis 22 ans s'est cassé la margoulette. Et je l'ai vraiment senti dans mon corps. Et il y a quand même eu une révélation, un soulagement de « Ah, c'est ça !» Ah, c'est ça. Le truc cellulaire de oh, « je savais qu'il y avait quelque chose, je savais qu'il y avait... » Et on me disait rien. Et moi, je posais des questions. Et ma mère, je lui disais souvent « Mais est-ce que j'ai été adoptée ?» Et elle me disait « Mais non, je te jure que je t'ai portée dans mon ventre. » Puis elle me montrait des photos. Bon. Alors, il faut savoir, parce que sinon, c'est pas tout à fait réglo ce que je suis en train de dire. C'est mon père qui ne voulait pas me le dire. Ma mère voulait et mon père ne voulait pas parce que c'était très compliqué pour lui. Et ma mère a voulu le soutenir et elle respectait son choix. C'est pas elle qui voulait pas me le dire. Je me rends compte qu'avec le passage avec ma grand-mère, c'était pas tout à fait juste ce que j'ai dit. Et donc, il y a eu en même temps un soulagement et en même temps un « mais il faut que je reconstruise toute ma vie ». Donc effectivement, il y a eu un assez gros effondrement à partir de là, parce qu'il a fallu que je recommence dès le début et que je remette les bons morceaux aux bons endroits. Donc, s'en est suivi 4 ans, je dirais, de... 2 ans de descente, encore plus, et 2 ans de remontée petit à petit.
Donc, de gros nettoyage, plus de fondation, plus rien.
Rien.
Mais donc, tout à reconstruire avec des bonnes briques cette fois.
Oui, en remettant, en allant vraiment, moi j'appelle ça fouiller la merde, hein. C'est-à-dire que ma mère me l'a dit, bon, très bien, il faut vivre avec ça, donc j'ai commencé à me renseigner, quel laboratoire, pourquoi, comment. Mes parents ont eux-mêmes déjà une vie assez compliquée, donc il fallait remettre tout dans l'ordre. Et puis il y a eu cette situation un peu ubuesque, c'est-à-dire que moi pendant 6 mois j'ai su le secret et mon père ne le savait pas. Donc on a retourné les chemises. Et donc quelques mois après, je me suis dit, il faut que je lui dise ce que je sais. Et ça a été dur, très 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 dur. Voilà. Donc ça a commencé par là. Et puis, suite à ça, j'ai fait une thérapie avec Catherine Hervé à Paris, qui fait des groupes de parole pour les personnes qui souffrent de troubles alimentaires. Qui a été une première base, qui a vraiment été une ça a fini de péter ce qui était mauvais, quoi. Voilà, c'est des groupes de parole. Elle est à la fois extrêmement aimante et extrêmement assertive. Donc ça a fini de péter ce qui était pas bon dans les croyances. Et puis, après, j'ai eu une petite traversée du désert. Il fallait du vide. Donc, je savais plus.
Ok. Combien de temps?
Franchement, en tout, ça a dû durer 4 ans. Quatre ans de grosses descentes et de remontées.
Ok.
Et puis, après la thérapie de Catherine Hervé, je suis tombée sur un thérapeute qui officie toujours à Enbom, qui s'appelle Yann Cano, qui m'a donc après emmenée jusqu'à la formation avec une médecin G qui m'a emmenée vers lui. Vers la spirale intégrale qui a fait ce que je suis aujourd'hui. Et donc, j'ai rencontré d'autres thérapeutes et là, les morceaux ont vraiment commencé à recoller. Parce que jusque-là, et c'est là où ça a été compliqué, c'est que oui, donc Catherine Hervé, ça a été une très bonne base et puis après, je trouvais plus de psy qui fonctionnait. Les troubles alimentaires, c'est très mal accompagné. Enfin, c'est beaucoup mieux maintenant. Mais il y a 10 ans en arrière, c'était terrible.
Et donc, la rencontre de la spirale intégrale avec Yann Cano, c'est ta porte d'entrée vers la spiritualité?
Non. Alors, la spiritualité, elle a toujours plus ou moins fait partie de ma vie, puisque ma mère a un petit don de médiumnité.
Ok.
Et donc, elle sait quand les gens vont mourir. Elle voit les amérantes, voilà. Mais c'est quelque chose qui la terrifie. Donc, en fait, j'ai à la fois toujours vécu avec ça, Et à la fois, c'était un monde terrifiant pour elle, et elle porte beaucoup la culpabilité de voir les gens qui vont mourir ou de percevoir que les gens vont mourir.
Et donc, dans ces moments assez noirs de ton existence, du début de ton existence, est-ce que la spiritualité ou le plus grand t'a aidé par moment, ou finalement, c'était pas encore toi présent pour t'aider?
Non. Ce qui m'a... Alors si, à l'adolescence, il y a les thanatonautes de Weber, qui ont été, mais alors, extraordinaires. J'avais la mère de mon petit copain de l'époque, qui, elle, était extrêmement ouverte, qui travaillait en lithothérapie, qui voyait déjà des médiums. Donc, je discutais beaucoup avec elle. Elle a été d'un très grand soutien et d'un très grand réconfort. Ouh, je suis un peu émue. C'est bon.
Et donc, ok. Mais comment ça arrivait après à te brancher à l'astrologie, à te brancher à plus grand? Comment de tout ça, tu vois, tu as senti, voilà, alors là, le terrain est clair, tu fais des bonnes bases, là, une fois que tout a été pété, tout se reconstruit bien. Comment ça évolue ensuite pour en arriver à l'astrologie?
À suivre.
Juno, du soleil pour ton éveil.